c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la Marche des Sciences, émission spéciale en cette semaine proposée sur nos antennes depuis lundi et qui pose la question suivante, climat, comment vivra-t-on le jour d'après ?
Je suis étudiant et tous les jours je fais le trajet à vélo. Quand on roule, on sent bien les dégagements toxiques, quoi, surtout sur les grands boulevards.
Et moi je suis motard, donc assez en matière de pollution de l'air, je suis assez concerné parce que je me prends tous les gaz dans le nez. Et bon, je crois qu'il y a un vrai problème, quoi. Puis un problème qui est lié à mon avis aussi au diesel, parce qu'il y a fait voir les camions, les bus par exemple, c'est une horreur, quoi. Absolument terrible. Bon, les pollueurs sont les industriels, c'est aussi les citoyens qui circulent en voiture. Tant que je suis pollueur comme les autres, je crois que c'est un problème dont il est absolument urgent de prendre conscience.
Un projet de loi anti-pollution de toutes les pollutions, moi je pense que c'est non seulement dans l'air, mais c'est bon.
Pollution, émissions de CO2, gaz à effet de serre, comme l'exprimaient ces quelques citoyens interrogés le 4 avril 1996 pour l'émission Le téléphone sonne sur France Inter, la qualité de notre environnement et le devenir de la planète est l'affaire de tous. De conférences en sommet, de rapports d'expertise en chartes établies, depuis les années 1970, les chefs d'État et autres représentants des pays du monde ont fait du problème climatique un moment fort dans l'agenda mondial. Mais bien avant, des voix se sont élevées dans ce 20e siècle de prise de conscience du dérangement climatique. Des rapports de scientifiques ont interpellé et conclu à un nécessaire changement à opérer pour contenir le climat et nous adapter de façon durable. Au fil des décennies, pendant que les dignitaires parlent, s'interrogent, marchandent, naviguant entre bonnes résolutions et défense de leur précaré ou de leur croissance, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne cessent de croître, engendrant une dégradation de la nature et des risques naturels non négligeables pour une partie de la population mondiale. Face à la lenteur des prises de décision, il est donc bien légitime aujourd'hui de poser la question de l'adaptation de l'homme depuis les premières alertes. Quels furent les acteurs de cette prise de conscience? Quelles solutions a-t-on spontanément développées pour mieux s'adapter? Au cœur de ce que l'on nomme la gouvernance climatique mondiale, quelle autre adaptation a-t-on imaginée pour relever le défi? Entre chefs d'État et société civile, entre le in et le off, pourrait-on dire, est-ce l'histoire d'une corrélation ou d'un schisme? Réponse avec nos deux invités. En direct sur France Culture, Amie Dahan, directrice de recherche émérite au CNRS et membre du Centre Alexandre Coiré. Elle est l'auteur avec Stéphane Écoute de « Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales », un livre paru aux presses de Sciences Po cette année. Et avec nous également Emmanuel Garnier, directeur de recherche CNRS au laboratoire Liens Université de La Rochelle, historien du climat et des risques, auteur notamment du livre « Les dérangements du temps », un livre paru chez Plon. Et cette première partie d'émission sera émaillée d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales et Hervé Evano. Et puis en seconde partie d'émission, immersion fascinante et riche d'enseignements dans la fabrication d'un documentaire participatif en cours de réalisation pour Arte. Opération Climat, c'est ce pari lancé par la chaîne de télévision franco-allemande qui a convié il y a quelques mois les citoyens européens à envoyer une vidéo dans laquelle ils pouvaient partager les plus beaux coins de leur nature, leurs inquiétudes face au changement climatique, leurs initiatives, voire leurs solutions. Une façon de révéler des consciences citoyennes et pourquoi pas, peut-être de sensibiliser les décideurs. En tout cas, un documentaire qui sera in fine diffusé sur Arte à l'occasion de la COP21. Et c'est Blandine Grosjean, productrice et co-réalisatrice du film, qui viendra nous en parler tout à l'heure. Mais pour l'instant, climat.
Une nouvelle fête à souhaiter chaque année, celle de la nature. Le 5 juin 72 s'ouvrait à Stockholm la conférence mondiale de l'environnement sous l'égide des Nations Unies. Le 5 juin, ce sera désormais à travers le monde la journée de l'environnement. Que va faire la France pour ce premier anniversaire? Un certain nombre de manifestations sont prévues et une journée sans voiture a été décidée à Paris. Une action symbolique, Brigitte Gros en a parlé au micro de François Charpentier.
14 organisations ont décidé à appeler à une organisation d'une journée sans voiture le 5 juin. Nous ferons une manifestation en gare Saint-Lazare qui sera une manifestation symbolique. Cette journée doit appeler tous les automobilistes à éviter de prendre leur voiture ce jour-là. La priorité des priorités doit être donnée au transport en commun.
Bonjour Amine Lahan.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel Garnier.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait du journal d'Interactu daté du 5 juin 1973. Un exemple, on peut dire, peut-être d'adaptation, en tout cas dans ces années 70, où la prise de conscience était au plus fort. Hein. Donc voilà, on organise ces journées et puis on essaie d'agir un petit peu comme ça, ponctuellement, peut-être trop ponctuellement d'ailleurs, vous allez nous en parler. Ce mot adaptation, on peut peut-être commencer par le définir, en tout cas, dire ce qu'il sous-entend, hein, prise de conscience, nécessité de réagir, Amine Lahan.
À vrai dire, le mot adaptation est très ambigu. Je crois qu'il faut rappeler que au moment où l'alerte climatique est montée, avant véritablement une prise de conscience politique, quand c'était les scientifiques américains qui produisaient les rapports à ce sujet dans les années 60 et 70, la réaction des politiques américains qui recevaient ces rapports, en particulier les différents présidents américains, parce qu'ils étaient écrits à leur intention, la conclusion très souvent de la consultation, de la réception du rapport, etc., c'était « bon, c'est un problème qui existe, mais on va s'y adapter. C'est pas grave, on va s'y adapter, on s'y est toujours adapté. » Donc, on s'est toujours adapté aux changements environnementaux de l'homme et c'est pas un problème. Donc, l'adaptation, ça a été souvent, longtemps, perçu comme une minimisation du risque du changement climatique. Les choses ont changé aujourd'hui, nous aurons certainement l'occasion d'en parler, parce que d'abord, le changement climatique est là. Il est dans les tuyaux, il va avoir lieu. Et donc, oui, l'adaptation est en marche.
Et il faut s'en préoccuper plus que jamais. En tout cas, on va le comprendre à l'issue de cette émission. Emmanuel Garnier, adaptation, on se rend compte quand même que les premières inquiétudes hein, face, par exemple, aux déforestations, à certains usages des sols, face à cette inquiétude un petit peu vis-à-vis de l'environnement, avant qu'il y ait la notion d'effet de serre, en même temps, elle arrive très tôt, au 19e siècle, hein, avec Svante Arrhenius. Donc, on remonte quand même assez loin par rapport à cette prise de conscience. Est-ce qu'on peut de la même façon remonter assez loin en matière d'adaptation?
Oui, sachant qu'en tant qu'historien, au sens strict du terme, le mot adaptation est un anachronisme. On ne le retrouve pas dans nos vieux papiers, dans nos archives, si vous préférez. Et le paradoxe se veut, puisque vous signaliez les premiers lanceurs d'alerte, le terme sans doute impropre au milieu du 19e siècle, que ces premières alertes coïncident paradoxalement avec le début de l'oubli du principe de précaution. On se situe au milieu du 19e siècle, et ça se traduit, nous, dans nos archives, dans nos plans anciens, par exemple, si on prend l'exemple des littoraux, par le début de l'urbanisation au plus près du trait de côte. On commence par des villas et ensuite les villes qui étaient davantage à l'intérieur des terres commencent à essaimer. En fait, pour véritablement voir des formes d'adaptation, qu'on n'appelait pas bien entendu adaptation, il faut peut-être aller avant 1850, regarder donc avec une profondeur historique plus importante. Et effectivement, les exemples sont multiples. Mais attention, l'adaptation dont on parle, nous les historiens, est une adaptation, je dirais, à grande échelle géographique. Autrement dit, sur un terrain restreint en termes de superficie. Et là, oui, quand on regarde au plus près, du sol, des communautés,
on a des quantités d'exemples. Face à des aléas climatiques ou à des dérèglements ponctuels.
Absolument, il m'arrive même de parler, le terme est une fois de plus anachronique, de stratégie d'adaptation. Alors quand vous dites ponctuel, pas tant que cela. Ces formes d'adaptation émergent au 17e, 18e, voire même avant, après un épisode long, ou alors quand on est inscrit dans des épisodes longs, par exemple une communauté qui affronte des inondations à répétition pendant 20 ou 30 ans, c'est arrivé en France et à l'étranger. Et à ce moment-là, on voit, il y a une réflexion globale, alors on pourra peut-être en discuter ultérieurement, les mécanismes, puisqu'on parle de la gouvernance mondiale, enfin ma collègue Amie parle de la négociation mondiale, on a des formes de négociation, d'échange d'informations, avec recours à des experts, recours éventuellement à la parole de terrain, et puis prise de décision réelle, hein, avec des mesures opérationnelles.
En tout cas, il y a ces scientifiques dont on parlait, qui font des rapports, qui les premiers alertent, même si ce mot n'était pas employé à l'époque. Mais pour nous, c'est ce regard que l'on porte aujourd'hui un petit peu sur l'histoire. Donc, je disais Arrhenius, Joseph Fourier, John Tyndall, qui, eux, ont parlé, conceptualisé cette notion d'effet de serre. Et puis, donc, ces populations touchées par des dérèglements et qui, comme on le perçoit dans vos travaux, Emmanuel Garnier, réagissent, en tout cas, et s'adaptent. Même si on n'utilisait pas ces mots-là, et c'est important de le rappeler. Il y a aussi tout le rôle joué dans ces moments-là, en tout cas dans cette première moitié du XXe siècle, puisqu'on avance dans ce temps, par les médias, la médiatisation, et on a retrouvé un document d'archives sonores que je veux absolument vous faire écouter. Il date du 2 janvier 1959, donc un petit peu plus tard, mais bon, il dit beaucoup de choses. Actualité de midi, c'est un papier du journaliste Philippe Diol.
On parle beaucoup ce matin du réchauffement de la planète. Je ne crois pas du tout qu'il y ait un lien entre ce pseudo ou ce prétendu réchauffement et le tremblement de terre qu'on a ressenti en Bretagne. À vrai dire, il y a de temps en temps comme ça des petites poussées qui sont plutôt des poussées de fièvre journalistique que des poussées cosmiques. Cela se produit à cause par suite d'une dépêche. Tout à coup, un matin, on annonce la fin du monde ou bien quelques changements profonds dans notre système solaire. Et cette fois, ce matin, c'était le réchauffement et tout le monde un peu dans les salles de rédaction a travaillé sur le réchauffement de la planète. Moi aussi, bien entendu. Et je crois qu'il est plus intéressant de dire comment peuvent se former ces petits phénomènes d'information. Le plus intéressant que l'on puisse dire, c'est que ce rapport de l'année géophysique internationale qui vient d'être publié apporte en effet des indications sur le réchauffement, mais plus particulièrement sur le froid, paradoxalement. La température moyenne du pôle sud s'est élevée de 5 degrés en 50 ans, et le réchauffement du Spitzberg est deux fois plus fort. À vrai dire, nous savions bien que nous étions dans une époque de réchauffement. Cela s'enseigne même dans les écoles, ce n'est pas nouveau. La fonte des glaces le long de la côte antarctique provoque une diminution rapide de la salinité de l'eau et il n'y a pas lieu de s'effrayer particulièrement. Sans doute ce réchauffement, et c'est ce qu'on explique beaucoup, peut-être pour faire un peu peur au public, ce réchauffement peut provoquer par la fusion des glaces une montée des océans, du niveau des océans. L'histoire de la Terre a connu déjà bien des régressions et des transgressions marines. Il n'y a pas lieu d'épouvanter les populations côtières en leur disant de se retirer parce que l'océan va monter. Et selon un savant américain, le professeur Elton Quinn, et voici la deuxième phase qui explique la naissance de cette nouvelle du réchauffement, selon ce professeur américain, le réchauffement serait dû à l'accroissement de gaz carbonique déversé dans l'atmosphère par nos fourneaux, nos poêles et nos automobiles. Situation qu'il qualifie d'entièrement nouvelle dans l'histoire de la planète. Je veux bien le croire, ce matelas carbonique laisse passer les rayons solaires mais s'oppose à la sortie des calories emmagasinées sur la planète. De là à s'épouvanter, je crois qu'il y a encore le temps de réfléchir.
Bon, alors nous ne dirons pas après nous le déluge.
Ah oui. Sauf qu'aujourd'hui, on le dit un petit peu plus quand même, après nous le déluge, cette planète que l'on confiera à nos enfants. 2 janvier 1959, ce document, qui veut réagir ?
Moi, Amida, je veux bien réagir. Je pense que, si vous voulez, parce que tout à l'heure, nous avons évoqué Tyndall, Arrhenius, Fourier, tous ces savants ont identifié le phénomène de l'effet de serre. Mais ce n'était pas un danger pour la planète. Ils ne l'ont jamais perçu comme tel. Jamais. Les autres épisodes sur lesquels des populations se sont inquiétées étaient des épisodes locaux et qui n'étaient pas du tout liés à un changement climatique global, en particulier lié à l'effet de serre. Et même après la Deuxième Guerre mondiale, et au moment où cette archive de 59, je crois qu'il faut souligner que après la Deuxième Guerre mondiale, et on peut dire jusqu'à la fin des années 60, c'est une période de très grand optimisme scientifique. C'est après la Deuxième Guerre, la science américaine, très forte, etc. Et il y a effectivement la naissance de l'idée d'un environnement total, mais tout ce qui nous entoure, doit être connu, doit être exploré, on doit savoir comment le mieux l'appréhender, mais pour le maîtriser, pour le contrôler, parce que la question des ressources est absolument stratégique, en particulier pour les États-Unis qui sont la première puissance mondiale.
D'où la mise en place d'organismes tels l'ICUS, par exemple, le Conseil international scientifique,
Unions scientifiques, absolument.
Et en 31, et l'OMM.
l'Organisation météorologique mondiale, aussi
fondée en 1947.
Et aussi cette fameuse année géophysique internationale qui a été lancée, dont un des fronts a été l'exploration des océans, et en particulier la ligne, les lignes de fracture souterraine des continents, des plaques des continents. Hein, c'est un peu après la fameuse théorie de Wigner sur la dérive des continents. On ne connaissait pas bien les lignes de fond des océans. Tout ça, c'est dans ces années 50 et dans l'année géophysique internationale qui inaugure ces efforts. Mais je crois que les choses vont basculer à la fin des années 60. Oui. Et d'ailleurs, dans ces années 60, l'inquiétude, si on peut dire, qui commence à monter dans les milieux proprement informés scientifiques, parce qu'il y a cette mesure, par exemple, de la concentration du carbone dans l'atmosphère par Keeling régulière, et on commence à se dire que ça monte. Mais très souvent, l'inquiétude majoritaire, c'est celle d'un refroidissement, d'un hiver nucléaire, parce que la principale inquiétude, c'est la bombe atomique.
C'est la guerre froide, hein. Voilà, on est en plein dans ces moments-là.
Donc, c'est début 70 qu'il y a un renversement sur lequel peut-être on va parler tout à l'heure. Mais voilà.
Bien sûr. Emmanuel Garnier, donc une réaction par rapport à ce document. Et il faut aussi préciser que dans ces années-là, hein, donc avant ces années 70, il y a des sciences hein, comme l'océanographie, la géophysique, la paléoclimatologie, sismologie, qui rentrent dans cette évolution des sciences du climat. Aussi.
Oui, mais très lentement, et elles ont du mal à s'imposer. 1967, ça correspond à la sortie du livre d'Emmanuel Le Roladurie, l'histoire du climat depuis l'an 1000. Et pour en discuter très fréquemment avec lui, il faut quand même bien l'avouer.
C'était un ovni à l'époque, hein, d'ailleurs.
L'accueil a été plutôt froid.
Très froid.
Surtout de la part de la communauté des historiens, qui a considéré que c'était vraiment, ça relevait du hobby scientifique plus qu'autre chose. À l'époque, Emmanuel Le Roladurie en a beaucoup souffert. Il serait là, il pourrait en témoigner. Ça s'est amélioré heureusement, mais ça s'est amélioré véritablement, cette idée qui consistait à vouloir étudier le climat seulement dans les années 2000. Les années 90, pas très bien perçu. Et une fois de plus, l'historien est un petit peu le mauvais joueur de l'équipe, là, sur ce plateau. Je vais un peu doucher ces progrès scientifiques, dans le sens où, pour nous, sur le terrain, historiens, même géographes qui travaillent sur cette période, qu'observe-t-on pendant ce pas de temps, les années 50, 60, 70? C'est l'explosion de l'urbanisation, de l'industrialisation, ce qu'on appelle, nous, les 30 glorieuses. En tout cas, aucun impact positif réel pour l'environnement.
Oui, donc de façon effrénée, on bétonne, y compris les côtes.
C'est un paradoxe auquel on se heurte. Oui, et pas seulement sur les littoraux. C'est à cette époque qu'on commence à coloniser, en quelque sorte, urbaniser, si vous préférez, les fonds de vallée qui nous posent tant de problèmes aujourd'hui en termes de gestion.
Et on gagne du terrain aussi sur la mer, d'où les polders, d'où...
Oui, la polderisation irréversible, exactement. Enfin, qu'il est de moins en moins, on pourra peut-être en discuter.
On va en reparler, on va avancer dans ce temps-là. Et justement, le temps donc marqué, comme le disait Amidahan, par les années 70, avec des changements profonds, d'ailleurs, dans les mentalités, hein, des préoccupations qui interviennent, l'environnement, les pesticides, les pollutions chimiques et industrielles. Je propose d'écouter un nouveau document sonore retrouvé dans les fonds de l'INA. C'est l'émission Indicatif Futur, Regard sur le monde à venir, qui a été diffusée le 19 janvier 1970. Et on pouvait y entendre l'interview de Pierre Pigagnol, ancien chercheur au CNRS et alors conseiller technique de l'entreprise Saint-Gobain.
Nous brûlons, en gros, en un jour, ce que la nature a accumulé en 1000 ans. Bon, ça ne pourra pas durer, c'est évident. Donc, nous allons nous trouver devant l'obligation de choisir d'autres moyens de transport. Et des moyens de transport qui, si possible, n'utilisent plus les formes fossiles de l'énergie. Avons-nous le droit de nous désintéresser totalement de ce qui se passera dans un siècle ou même dans deux? C'est une question de morale de l'espèce à long terme. Personnellement, je n'en suis pas convaincu et je crois que nous devrions nous poser le problème. Nous allons assister à la fonte des glaciers, la fonte progressive des glaciers. C'est un phénomène qui paraît maintenant irréversible. Cela veut dire une élévation du niveau des mers d'un certain nombre de dizaines de mètres. Je vous laisse à penser ce qu'il restera de la Hollande et même d'une bonne partie de la France, du bassin parisien et de Paris. Donc il y a là un problème auquel nous devons réfléchir indiscutablement. C'est un problème d'avenir lointain.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Amidahan, alors donc je rappelle la date, hein, 19 janvier 1970, et il faut signaler que Pierre Pigagnol, 2 ans plus tard, sera l'un des auteurs du fameux livre « Halte à la croissance », hein, livre du Club de Rome.
Oui, là je dois dire que cette archive est vraiment étonnante, de clairvoyance et de... préfigurait ce qui va se passer. Et malheureusement, bon, là aussi, le Club de Rome s'inscrit dans la foulée, dans la continuité de ce diagnostic, même si l'essentiel du rapport ne porte pas sur le climat, mais sur l'épuisement des ressources et l'impasse dans laquelle les modes de production se trouvent, dans la mesure où nous épuisons les ressources dont on a hérité, dont le charbon qui est évoqué chez Pigagnol, mais toutes les autres, les métaux, la métallurgie, etc. Oui. Et cette modélisation, parce que c'est pas simplement un discours, c'est avec un modèle, etc., a été tellement dévalorisé, critiqué par les économistes sous prétexte que c'était malthusien, que c'était pas sérieux au point de vue modélisation économique, qu'il n'y avait pas de prix, etc. Et finalement, il faut reconnaître que les modèles du Club de Rome, aujourd'hui, sont encore, dans leur structure, même si ce n'est pas exactement les mêmes, ceux qui sont utilisés dans le groupe 3 du GIEC, qui fait ces diagnostics pour, dans sur l'état du climat et les perspectives futures, etc.
Eh oui, parce que notamment dans ce livre, il y avait cet appel à la décroissance. Mmh. Alors en 1970, peut-être que c'était alors où un gros mot, même on peut dire par exemple pour les États-Unis, parce que la grille de
c'est
lecture...
C'est inaudible à cette époque.
Voilà, exactement. Et aujourd'hui, la décroissance, alors on en parle, ça reste encore difficile, inaudible, en tout cas dans les sommets, on peut dire, même si on a le sentiment que au niveau d'une société civile, il y a une autre prise de conscience. Emmanuel Garnier.
Oui, à chaud, effectivement, je pense que la décroissance est inaudible aujourd'hui. Si vous écoutez les actualités, etc., le mot-clé, c'est davantage la reprise de la croissance qui prévaut. Et en aucun cas, la décroissance. On fait allusion, donc, dans cette archive à la Hollande. Bon, elle a survécu, la Hollande. Elle a survécu parce qu'elle a pris les devants. Elle a essuyé une submersion terrible en 1953. L'Angleterre aussi, ça a été un désastre humain avant d'être un désastre économique. Hein. 2000 morts. Imaginez si on devait affronter ce type de désastre, de catastrophe aujourd'hui, c'en serait une pour l'Europe du Nord. Et en fait, le désastre leur a permis d'échafauder, mieux que cela, d'élaborer une stratégie de résistance, d'adaptation, dont ils mesurent aujourd'hui les modèles, les limites, du modèle, à savoir la polarisation et le tout défense, avec la construction de systèmes de digues absolument pharaoniques. Aujourd'hui, la Hollande réadapte le plan de défense, c'est ça qui est intéressant. Elle anticipe toujours, c'est peut-être pour la raison pour laquelle elle n'a pas disparu, alors que l'auteur de l'archive le supposait, en tout cas à quelques décennies, je suppose. Là, ils sont en train de réévaluer le système de défense, qui passe finalement par un système beaucoup plus souple, beaucoup plus durable, dirait-on aujourd'hui, avec une ouverture, l'acceptation de la pénétration de la mer. Alors ça implique une négociation, une médiation avec les populations locales. On a eu l'occasion, dans le cadre d'un programme européen sur les risques littoraux, justement, d'avoir un exposé sur les responsables. Ça s'appelle le plan Delta. Et il passe donc à l'étape suivante, le Delta 2. Et il nous expliquait parfaitement qu'en même temps qu'il concevait techniquement cet abandon temporaire de territoire. On accepte que l'eau réoccupe du terrain de temps en temps, qu'elle se retire, etc. Ils menaient de front une stratégie sociale, c'est-à-dire qu'ils expliquaient aux populations locales quels intérêts ils pourraient tirer d'un retour de la mer et des eaux fluviales. Hein, en même temps, puisqu'on est dans des zones estuaires, ils ont décidé de rouvrir ces barrages, ces digues, pour permettre une meilleure circulation. Sur le plan écologique, c'est plus intéressant. Et financièrement, pour le contribuable, soyons trivial, beaucoup plus durable aussi.
Alors, ce que vous nous dites, c'est que finalement, il y a quand même des adaptations qui ont été orchestrées, gérées par certains pays ou par certaines régions, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est l'historien qui parle, à condition que les responsables aient une vision durable.
Alors, c'est aujourd'hui Amidan. Oui, si vous voulez, on y reviendra. Mais c'est aujourd'hui un des nerfs du problème et de la négociation de cette conférence. Mmh. C'est-à-dire que les pays riches ou développés et qui ont des infrastructures, etc., sont quand même plus aptes que les autres à avoir ces stratégies d'adaptation face à un certain nombre de risques, en particulier montée du niveau de la mer, submersion, etc., avancée, recul des côtes et tout ça, que les pays en développement et en particulier les plus pauvres et les petites îles qui, elles, risquent d'être totalement submergées. Et bien que la hausse du niveau de la mer annoncée dans les rapports du GIEC reste pour le moment plus modeste que ce qu'elle disait notre archive sonore, qui annonçait plusieurs mètres. Là, les prédictions sont plutôt d'autour de 1 mètre pour le siècle. Bon, ce qui est 1 mètre, ça paraît pas beaucoup. Évidemment, ça dépend des endroits, oui, ça sera plus. C'est une moyenne. Voilà, donc toutes ces prédictions en moyenne sont des fois difficilement appréhendables.
Donc le GIEC, on va le rappeler pour nos auditeurs, créé en 1988, hein, donc départ d'une phase d'activité diplomatique intense et avec la conférence de Toronto notamment en 88, et puis les premiers rapports du GIEC hein, datent de 1990, mais auparavant quand même, il y avait cette conférence de Stockholm, 1972, départ de cette organisation, en tout cas cette volonté de s'organiser, de se réunir de la part de chefs d'État et de responsables politiques. Je vous propose d'écouter une nouvelle archive sonore. C'est justement le discours à la conférence de Stockholm de René Maheu, président de l'UNESCO.
Comme le dit si bien la devise de votre conférence, nous n'avons qu'une seule terre. Il existe ainsi, au-dessus de la problématique des nations, une problématique de l'humanité qui transcende les frontières des États et exige une coopération internationale rationnelle sur le plan mondial. C'est sur cet aspect global des problèmes de l'environnement que votre conférence a mis l'accent. Et sans doute, est-ce cet aspect qui vient le premier à l'esprit quand on parle d'organisation internationale. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue. Pour autant, la diversité de l'humanité, composée de nombreuses nations, d'une multitude de groupes et d'individus, ayant des conceptions de la société et des valeurs différentes, et qui bénéficient de façon très inégale des biens de cette terre commune. À y regarder de près, la plupart des problèmes de l'environnement n'ont pas un caractère à proprement parler mondial, mais accusent plutôt de multiples aspects régionaux, nationaux et locaux. Pour être précis, il ne faut pas que la légitime préoccupation de l'avenir du genre humain sur la Terre nous cache l'injustice et le désordre qui y règnent actuellement et nous fasse oublier que l'ordre de priorité des mesures à prendre dépend nécessairement de situations et de conceptions particulières.
Évidemment, formidable hein, de réécouter et d'écouter ces documents qui remontent quand même là, celui-ci, au 28 juin 1972.
Oui, tous les problèmes sont énoncés, on peut dire. Tous les problèmes sont énoncés. D'une part, le lien environnement-développement et pays pauvres. Et après l'intervention de René Maheu, que nous avons entendu, il y a eu celle d'Indira Gandhi, qui a dit, devant la conférence de Stockholm, « La première pollution, c'est la pauvreté ». Et donc là, on a le débat, il est là. Et on peut dire qu'en 45 ans, parce que ça fait 45 ans, et ben on n'a pas bougé. Tous les termes du débat sont là. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup non plus avancé dans la façon de faire converger ces problématiques et de les associer, et de les prendre en main conjointement, et de savoir comment les pays du Nord peuvent aider les pays pauvres à emprunter des chemins de développement qui ne soient pas aussi polluants et aussi prédateurs que les nôtres. Et en même temps, pourquoi les résultats sont-ils si faibles? Il faut dire qu'entre 72, Stockholm et aujourd'hui, nous avons eu une période terrible, terrible, celle des années 90 et de la première décennie du 21e siècle, qui est une globalisation économique néolibérale, mais galopante, effrénée, une course à la compétitivité de tous les pays, la recherche des ressources, etc., liée aussi à la croissance, bien sûr, des émergents, qui est presque inédite dans l'histoire, à deux chiffres.
Et personne ne veut lâcher ou son précaré ou un bout de sa croissance et de sa puissance.
Et personne ne veut réguler quoi que ce soit. On est, dans les années 90, vers l'ouverture de la dérégulation tous azimuts.
Là où à l'origine d'ailleurs c'était l'Europe et les États-Unis qui étaient les moteurs dans l'histoire du processus, et puis bon, les États-Unis sont aujourd'hui à la fois le pays des lanceurs d'alerte quand même, parce que c'est le pays des lanceurs d'alerte et en même temps la puissance la plus récalcitrante pour rentrer dans les négociations climatiques. Oui. Ce qui est intéressant à Midaan, c'est que les pays en développement justement, eux, ont fait bouger un peu les lignes sur cette question de l'adaptation, non ?
Oui. c'est sûr. C'est-à-dire qu'après le retrait des États-Unis du protocole de Kyoto, en 2001, il y a eu une sorte de vacuité dans la gouvernance climatique internationale. On les attendait, on pensait qu'ils allaient revenir, et voilà, on n'a pas pris acte de la signification que ça avait, qu'ils se retirent. Et donc, oui, ils allaient revenir, on les attend, etc. Et du coup, les pays en développement ont utilisé cette période pour faire monter leurs enjeux, leurs revendications, dont la question de l'adaptation. C'est-à-dire, parce qu'après les années 90, ils étaient, eux, au début, un petit peu sceptiques hein, par rapport à cette question du changement climatique. Ils n'y croyaient pas vraiment. C'était pas clair. Est-ce que c'était quelque chose qui allait empêcher leurs économies de se développer? Pourquoi le Nord mettait ça en avant? Donc, ils n'avaient pas grande confiance. Mais je crois que dans la première décennie, d'abord, les choses sont là, elles sont plus observables. Le consensus scientifique s'élargit, la montée de conscience aussi. Et ces pays-là utilisent cette arène des négociations, de ces COP, en particulier d'ailleurs dans le HOF, avec les ONG, avec les scientifiques, en alliance avec eux, pour faire advenir leur revendication pour l'adaptation. Si vous voulez qu'on fasse autrement, faut nous aider. Et là, on est devant ce dilemme.
Et faire autrement, ça passe aussi par des thèmes qui ne sont pas forcément abordés, mais le développement durable, l'éco-développement, l'agriculture autrement, la révolution verte, les énergies renouvelables. Dites-moi si je me trompe, Ami Dahan, mais on a l'impression comme ça, au fil de cette histoire, des négociations, de cette gouvernance climatique, qu'on a volontairement peut-être cherché à dissocier le problème de réchauffement climatique avec le reste des dysfonctionnements et des troubles à l'échelle de la planète, hein, comme la perte de la biodiversité, la désertification, le problème des pesticides, produits chimiques, etc., le développement, l'éco-agriculture.
Oui, je suis tout à fait d'accord, et c'est un des points sur lesquels nous insistons beaucoup dans notre livre, c'est-à-dire le climat a été enclavé sur la scène internationale. On l'a dissocié de tous les autres problèmes, alors que, d'abord, dans les instances internationales autres, la Banque mondiale, le FMI, etc., tous les jours, on prend d'autres décisions pour le climat qui sont contraires aux intérêts du climat, c'est-à-dire on continue à investir dans les énergies fossiles, etc. Et donc là, il y a aucune cohérence, aucune cohérence. Et en même temps, ce climat, dans cette négociation-là enclavée, on lui donne la charge d'embrasser tous les problèmes de la planète, tous. Que vous avez d'ailleurs passé en revue. Et donc là, c'est d'où une fabrique de la lenteur, d'où une paralysie, à la fois une gouvernance, un régime climatique, comme nous disons, obèse, qui doit gérer toute la planète, et en même temps complètement paralysé, parce qu'il n'avance pas. Et donc on est là-dedans. Donc les choses se sont un tout petit peu modifiées depuis Copenhague, mais pas assez. Visiblement pas assez.
Climate change affects everyone.
Come, come, join this revolution. Warriors, heed the calling of your hearts. Come, come, be part of the solution. Wherever you are, it's a place to start.
Whoever you are, young or old, rich or poor, male or female, climate change affects everyone. It is the human rights issue of all time. It is the single biggest threat to human health and security. Wherever you live, no matter what country, you must assert your rights as citizens.
As climate safety is a human right, time has come for the world to unite. We need to take action right now.
This is a government policy issue. The fate of all people is at stake.
decisions that are being made by world leaders will decide the future of life on Earth. According to the latest science, we must act now to begin our transition to a 100% carbon-free, clean energy economy. To ensure our future, we can and must decrease our carbon emission, starting now. We absolutely must stop burning fossil fuels in the coming decades. Humanity has fallen out of balance with natural laws.
Grandmother Hurdle's going to lead the way, guide us to a better day. Her back is strong and wide.
C'était Love Lution, chanson officielle de la COP21 chantée par Diana Lindley. C'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture en direct et en compagnie de Ami Dahan, directrice de recherche au CNRS et directrice de recherche émérite au CNRS, membre du centre Alexandre Coiré et auteur avec Stéphane Aïcoute de Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales, livre paru aux presses de Sciences Po. Et avec nous, Emmanuel Garnier, directeur de recherche CNRS au laboratoire Liens Université de La Rochelle, historien du climat et des risques et auteur notamment du livre Les dérangements du temps paru chez Plomb, L'homme et le climat, une adaptation en marche. C'est la question que nous posons aujourd'hui dans l'émission, donc à l'occasion, je vous le rappelle, de la semaine spéciale climat, comment vivra-t-on le jour d'après, proposée sur nos antennes depuis lundi. Emmanuel Garnier, je me tourne vers vous parce qu'on parlait justement de ce qui coince en haut lieu, dans les sommets, dans les conférences, et en même temps vous, de par votre travail d'historien et sur le terrain, vous rendez compte que des initiatives, des adaptations, certaines sont en marche localement finalement et tout simplement par l'initiative de citoyens.
En marche, en germe, je dirais.
En germe. Hein.
Oui, c'est pas parce que je suis particulièrement historien de terrain, simplement j'ai l'opportunité de participer à des programmes internationaux et ces programmes mettent en avant les sciences sociales de manière systématique. C'est-à-dire que quand on a un déroulé en moyenne de 3 ans sur un programme de recherche, le premier objectif, c'est de faire le tour des données à connotation sciences sociales, sciences historiques, etc. Donc ce qui m'amène, moi, à travailler sur le terrain, c'est-à-dire que les collègues plutôt issus des sciences dures me disent il faut absolument interroger les gens, leur demander comment ils vivaient, comment ils vivent actuellement les modifications climatiques, comment ils s'étaient adaptés auparavant, s'ils s'étaient adaptés, etc. C'est ce qui me vaut effectivement de faire autant de terrain avec des locaux. J'ai à disposition parfois des étudiants du CRU et ainsi de suite qui font les traducteurs quand, par exemple, je ne parle pas le grec. Mauvaise chose, mais on s'adapte là aussi une fois de plus. Alors, qu'observe-t-on ? Oui. Alors que les sociétés ont connu, mais on vient de le dire, une rupture absolument fondamentale qui correspond aux années 60, 70 à peu près. C'est-à-dire que ces sociétés qui étaient traditionnelles, mais c'est péjoratif le terme de traditionnel, souvent dans la bouche des sociologues, etc. Moi, j'y vois plutôt des sociétés bien adaptées à leur milieu, pour ma part. Ces sociétés abandonnent leurs pratiques traditionnelles avec un nouveau modèle de développement économique, celui des Trente Glorieuses, que ce soit en Grèce, que ce soit en Europe du Nord ou en Europe de l'Ouest, les choses sont sensiblement identiques. Dans le cas grec, oui, c'était dans le cadre d'un programme sur les sécheresses et on était amené à travailler sur une île des Cyclades, l'île de Syros. Donc cette île aujourd'hui doit faire face donc à des problèmes absolument incommensurables, en premier lieu économiques, avec aussi une émigration au cours des 20 dernières années massive à destination d'Athènes, particulièrement émigration des jeunes. Et aujourd'hui, ces jeunes reviennent au pays, mais les paysages ont été très largement détruits, notamment les méthodes de culture traditionnelles. Donc là encore, l'urbanisation s'est répandue un petit peu partout. Et là, c'est une urbanisation d'origine grecque. On n'a pas finalement énormément de résidences secondaires possédées par des étrangers, d'autres Européens. Ce sont plutôt des Grecs qui ont fait fortune ou carrière. Il y a beaucoup de fonctionnaires parmi eux à Athènes, qui reviennent au pays pour la retraite et qui construisent des maisons un peu n'importe où, sans forcément de système d'évacuation, d'assainissement, etc., parce que la législation locale est extrêmement laxiste, il faut bien le reconnaître. Et dans le même temps, on assiste à un abandon de ces pratiques alors qu'on peut qualifier d'agricole, mais qui faisait intervenir énormément de techniques hydrauliques. Or, ces techniques hydrauliques étaient parfaitement adaptées au risque de sécheresse. Alors, on a du mal, nous, en tant qu'historiens, et même dans le cadre de ce programme, de voir si les sécheresses ont connu une recrudescence ou pas. Mais toujours est-il qu'on observe encore dans les vestiges du paysage ces techniques, des techniques donc, qui sont toutes simples, qu'on retrouve dans la plupart des pays méditerranéens, comme ce système de terrasse qui permettait, quand on avait des abats d'eau brutaux sur un pas de temps
et qu'on a négligé ou oublié les dernières décennies, il faut y revenir.
Davantage l'eau, surtout de la répartir en aval pour éviter des inondations catastrophiques. On avait aussi tout un système d'irrigation avec des petits canaux qu'on revoit, que certains agriculteurs aujourd'hui remettent effectivement au goût du jour. Donc on a une reprise, c'est vrai que c'était une lueur d'espoir, et notamment parmi ces enfants qui ont quitté l'île il y a 15 ou 20 ans et qui reviennent pour survivre finalement au pays, en se disant Athènes, ce n'est plus possible, autant revenir sur les terres familiales, et qui tentent de renouer avec ces anciennes pratiques. Mais mieux encore...
Des semences aussi, des semences d'autres fois qui ont failli disparaître, parce qu'il faut quand même parler de cette globalisation dont on parle souvent, mais la responsabilité aussi des semences Monsanto, on les connaît, et là, il y a d'autres expériences
dans
qui sont menées.
Dans ce projet, ce fut un petit peu la cerise sur le gâteau, ou la graine dans l'ensemble du projet, à savoir que... À force d'interroger les gens, les anciens ont fini par me dire « Mais tu sais, on cultivait des semences qui n'avaient pas besoin d'eau. » C'est ce qu'ils appellent localement les plantes anhydra. Alors que quand j'avais interrogé les jeunes agriculteurs, aucun n'avait mentionné l'existence de ces semences. Donc ces anciens m'ont emmené dans leur potager, et c'est quelque chose, c'était vraiment une divine surprise. On voyait des cucurbitacées, des tomates, des haricots verts, des potirons, etc., qui poussaient sur des plateaux totalement arides, sans eau, absolument pas d'accès à l'eau, les puits sont trop éloignés. En revanche, qui nécessitaient un petit travail de la terre superficielle, le soir généralement, et le matin très très tôt, avec une production d'un rapport satisfaisant. Alors que les jeunes paysans aujourd'hui sont incapables de cultiver, ils sont totalement dépendants de plants qu'ils achètent à l'étranger, généralement à de grands organismes, des multinationales, etc. Ils achètent le plant en moyenne à 1,20€, 1,40€, vous imaginez. Ces plants ne sont pas reproductibles dans bien des cas.
Donc c'est un engrenage.
D'abord, le cycle d'endettement qui se met en route, et ces jeunes agriculteurs n'imaginent pas d'autres solutions, et en particulier pas de revenir à ces semences, parce qu'ils vous rétorquent la chose suivante, mais les rendements ne sont pas suffisants, sachant que les rendements qu'ils produisent aujourd'hui ne s'écoulent plus parce que les produits sont trop chers.
Donc finalement, c'est ce que je disais,
la quadrature du cercle.
C'est ça. Donc dans ces sociétés civiles, il y a ces solutions qui en tout cas donnent un certain espoir pour sur ce terrain de l'adaptation.
Oui, à condition aussi que les générations communiquent entre elles.
Ami Dahan.
Oui.
Alors donc
c'est
ce que j'appelle moi le off en fait. Hein, le off, c'est tout ce qu'il y a autour de tous ces ramdams un petit peu politiques. Où là il y a des choses en gestation.
Bien sûr, ça existe. C'est-à-dire que
une croissance verte en fait. Il y a de la croissance quand même, mais verte.
Oui, ce que Emmanuel Garnier a observé en Grèce, dans certaines îles grecques, moi je l'ai vu aussi beaucoup en Amérique latine, ou au Mexique, enfin il y a des tas d'endroits où, en particulier dans les milieux agraires, il y a un retour vers des méthodes plus ancestrales et plus anciennes et qui étaient beaucoup plus économes en ressources et en eau, etc. Bon, mais malheureusement, c'est des échelles qui sont encore très petites. On peut identifier les obstacles à ça. C'est-à-dire, on a mentionné les multinationales, mais bon, bien sûr, pour l'agriculture intensive, on sait que c'est des forces énormes, il y a des lobbies énormes. Voilà. Et puis aussi, on sait aussi que l'agriculture a une importance décroissante dans les économies nationales, enfin décroissante en fraction de la population qui en vit. C'est ça que je veux dire. Évidemment, elle est stratégique quand même pour la nourriture, etc. Pour tout ce qui est la production industrielle, etc. Pour le moment, je trouve que toutes les voies pour, entre guillemets, si on veut utiliser le mot adaptation, c'est-à-dire de production de biens qui soient économes en ressources, qui soient de l'économie recyclée, etc., avec utilisation des déchets, minimisation de ces déchets, etc., ça reste encore fragile. Il y a des choses qui émergent dans la société civile, mais relativement peu. Et je suis aussi très, très attentive au fait que toutes ces choses ne peuvent pas se discuter dans une gouvernance globale. Hein, c'est, il faut changer d'échelle. C'est à toutes les échelles que ça doit se passer.
Donc national, local, etc. La solution passe par là, etc. Parce que Ami Dahan, vous l'avez suggéré, en tout cas, et laissé entendre, il est plus que grand temps de réagir.
Oui, je crois qu'il est plus que grand temps. Aujourd'hui, l'alerte lancée par les scientifiques est vraiment de plus en plus dramatique. Et je crois que, y compris là, dans les derniers jours, on a des articles, etc., qui, par exemple, abordent l'éventualité d'une fonte beaucoup plus accélérée des calottes glaciaires et des conséquences. C'est des choses qu'on voit un peu, hein, le recul des glaciers, etc. Donc, bientôt, on ne pourra plus s'adapter à une échelle raisonnable, parce que ça sera de plus en plus compliqué.
Merci à tous les deux. C'est le mot de la fin de cette première partie. Je sais qu'on aurait pu tenir encore des heures. En tout cas, je lance peut-être un petit appel. C'est intégrons aussi les chercheurs, les historiens en sciences sociales dans toutes ces négociations, parce que réintégrer de l'humain, c'est recréer du lien social sur ces problématiques. Et je pense qu'au-delà des chiffres, toutes ces initiatives humaines sont bonnes à prendre. Merci à tous les deux. Ami Dahan, livre commis avec Stéphane Écoute, Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales, aux presses de Sciences Po. Et puis Emmanuel Garnier, on renvoie vers les dérangements du temps, paru chez Plon, et puis d'autres références bien sûr à retrouver sur notre site de l'émission et aussi le site L'écologie en chanson. Allez voir, vous verrez, c'est intéressant.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Et c'est la seconde partie de la marche des sciences, actualité des sciences et de leur histoire, avec toujours en thème central l'homme et le climat et une initiative qui en dira long sur l'engagement citoyen de par l'Europe et même le monde. Il s'agit de l'opération Climat, lancée par Arte au printemps dernier.
Ça, c'est la Terre. Ça, c'est vous, ou moi, ou lui, ou eux. Et ça, c'est un petit cœur. On a tous un coin de paradis, unique, précieux, mais fragile aussi, menacé. Le dérèglement climatique, ça vous dit quelque chose? Alors pour ne pas voir disparaître cet endroit, faites-le connaître. Défendez-le. Comment? Premièrement, faites une vidéo de 1 à 3 minutes. Mettez-vous en scène, vous, vos proches, un habitant, un animal, des plantes. 2. Dites-nous, qui êtes-vous? Où êtes-vous? Racontez-nous un moment de bonheur ici. Qu'est-ce qui menace cet endroit? Quand avez-vous pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour cette planète? À la fin de l'année, Paris accueille le sommet sur le climat. Faites passer votre message aux négociateurs. Soyez poétique, combatif.
Bonjour Blandine Grosjean.
Bonjour.
Alors, productrice à l'origine de cette idée, hein, on vous doit effectivement cette initiative. Vous êtes réalisatrice de ce documentaire participatif en gestation, on peut le dire. Opération Bimédia, il faut le souligner. Donc, ce sera retrouvé sur Arte TV et sur Internet. Et donc, en cours de fabrication et qui sera donc dévoilé sur Arte au moment de la COP21. Dites-nous tout de suite, votre ambition de départ, c'était quoi?
Mon ambition, c'était de toucher les gens. Comme moi, j'ai été touchée, j'ai eu du mal. Je suis journaliste, pas spécialiste de l'environnement. Et les mots de climat, de dérèglement climatique, changement climatique, touchaient ma tête, mais pas le reste. J'avais vraiment du mal à faire le lien entre toutes ces informations scientifiques auxquelles je crois. Je respecte les scientifiques, ceux qui travaillent, et ce que je vivais. Et donc, on a pris les choses un petit peu à l'envers. J'ai pas parlé aux gens du climat. On leur a parlé de nature, on leur a parlé de lieu. Et j'avais la conviction et l'intuition, et d'autres l'ont écrit, l'ont démontré mieux que moi, que ce rapport, on peut se bouger pour la nature, parce qu'il faut changer, il faut qu'on prenne chacun nos responsabilités. Ça passe par un lien émotionnel.
Par l'humain dont parlait Emmanuel Garnier.
Oui, l'humain et l'émotionnel. Je pense que si toute sa vie on était coupé de la nature, de quelque chose, on a du mal à l'envisager. Et moi, je l'ai vu là dans ce qu'on a reçu, les vidéos qu'on a reçues. On a reçu énormément de vidéos des pays de l'Est.
Plus de 1000, c'est ça?
À peu près 1000. On a reçu énormément de vidéos des pays de l'Est qui sont fortes, qui sont belles. mais dans les échanges qu'on a eus avec les gens, il faut se rendre compte que dans ces pays-là, beaucoup de gens ont été coupés de la nature. Il y a eu un tel désastre écologique, il y a eu un tel une implication de l'industrialisation que ceux qui ont réussi, notamment dans les pays qui ont été les pays baltes, on a reçu énormément de vidéos des pays baltes, ils l'ont vécu comme une violence. Donc ce lien émotionnel, je voulais le retrouver et pour faire un documentaire, c'était plus simple plutôt que de dire aux gens qu'est-ce que vous voulez faire pour le climat et d'avoir des vidéos militantes qui ne touchent pas tout le monde. C'était vraiment raconter cet endroit, vraiment le pitch c'est filmer cet endroit que vous ne voudriez pas voir disparaître, que vous ne supporteriez pas de voir disparaître. Et c'est comme ça en fait qu'on a construit le projet.
Et alors du coup à ce stade de la fabrication du documentaire Blandine Grosjean, quel rapport enfin, au climat se dégage à la nature, mais surtout quelles sont les menaces identifiées?
Alors, il y a différents types de vidéos. Il y a des vidéos qui sont de l'ordre de l'inquiétude, du trouble. Des gens qui sont informés, qui ont subi chez eux des événements extrêmes, mais qui ne modifient pas complètement leur façon de vivre. Et il y en a d'autres qui ont vraiment vu leur vie affectée. Il y a énormément de choses sur la fonte des glaciers. Il y a énormément de choses sur les poissons qui disparaissent de la mer pour différentes raisons, la surpêche industrielle ou le réchauffement des eaux. Il y a énormément de choses sur les rivières qui ont disparu. Et je rebondis sur ce que disait Emmanuel. C'est vrai qu'il y a une... Les gens parlent beaucoup de leurs grands-parents. Le lien, c'est les grands-parents. Il y a énormément de vidéos où les souvenirs, l'ancrage à la nature, c'est les grands-parents. Et on se rend compte qu'il y a eu une génération, celle des 30 glorieuses, des parents, je pense, qui a nié tout ça, qui allait vivre en ville, qui a dit les voitures, le progrès, le périphérique, les avions. Et les enfants, quoi, les enfants ou les jeunes, parce qu'on a des gens de 15 ans, 35 ans ou plus âgés, nous parlent de ce qu'ils ont connu avec leurs grands-parents. Et cet ancrage-là, pour les jeunes, ceux qui le retrouvent, c'est extrêmement important. Ils s'accrochent à ça. Mais il y a eu... les gens ne nous parlent pas en Europe, en tout cas en Europe occidentale, ne nous parlent pas d'une catastrophe encore. Ils parlent d'un effacement. Beaucoup de gens disent que c'est en train de s'effacer. Dans certains pays, on a des vidéos en Chypre où il n'y a plus de rivières, il n'y a plus de... D'autres, on est vraiment au bord de la catastrophe. Dans les pays de l'Est, il y a des endroits qui sont absolument dévastés par le réchauffement climatique, qui est un concept, qui est un symptôme, le dérèglement climatique, mais eux nous parlent des causes. Les gens nous parlent des causes. Le réchauffement climatique, il y a plein de gens dans les pays de l'Est, c'est un concept ou le dérèglement climatique qu'ils ne connaissent pas. Oui. Eux, ils parlent des barrages.
Le message est brouillé,
des barrages qu'on leur a imposés, oui. Des usines qui déversent les pesticides dans les rivières, des marais qu'on a asséchés pour créer des choses. Ils nous parlent des causes et je pense que c'est important. Et même en France, il y a des gens, je leur ai demandé, quand on leur demande, ils disent j'ai envie de filmer mon petit coin de paradis, mais moi le réchauffement climatique je vois pas ce que c'est. Donc il y a tout un effort de... nous on a fait tout un effort, le community management c'était pas envoyer votre vidéo, c'était de leur dire ben, tu vois là si tu crées un barrage, si tu assèches une zone humide, si tu fais ça, ben, ça va disparaître, il y aura moins de poissons, il y aura moins d'oiseaux, il y aura moins d'arbres, et c'est un processus assez compliqué. Et en fait, dans la note d'intention que j'avais écrite, j'ai un grand regret, j'ai un énorme respect pour les scientifiques, mais j'ai le regret qu'on ait inventé le mot climat et qu'on n'ait pas parlé du temps qui fait, comme le nom de votre livre, du temps qui fait et de la terre et de la nature. Pareil, le mot planète, je pense, est un mot qui n'évoque rien, mais quand on dit aux gens votre coin, alors votre pays, il peut y avoir du nationalisme, mais pas seulement, les gens nous parlent de leur rivière, de leur montagne, de leur village, et il faut reconnecter à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'expérience. Je dis de l'émotion, mais en fait, c'est de l'expérience qu'on a vécue.
Alors, vous nous avez envoyé quelques vidéos. On va préparer. Je me tourne vers justement Alexandra Malka qui réalise l'émission pour préparer aussi en attendant Monténégro, hein, parce qu'on avait une jolie vidéo sur Monténégro. Mais entre-temps, et si on la retrouve, bien sûr, entre-temps, on va vous proposer d'écouter celle qui parle aussi de ce qui est nocif, donc tout ce qui tourne autour du fric, le fric, le fric, le fric.
Le fric, 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 le fric,
le fric, le fric, le fric, le fric, le fric,
le fric, le fric, le fric, le fric, le fric.
Alors on a eu toutes sortes, c'était un peu...
Décrire ce qui se passe.
Oui, je vais déjà vous décrire ce qui s'est passé. Ce jeune avait envie de participer et en fait, il aime la vidéo, il aime l'animation. Je lui ai dit, fais avec, chacun vient avec ta créativité. Il a fait un dessin animé qui est vraiment joli, où on voit des oiseaux en forme de billets. Il est suisse, ce jeune homme s'appelle Romain, donc il y a de l'argent en Suisse, il sait de quoi il parle. C'est des billets qui descendent, qui des volent. Oiseaux qui volent, et puis il y a des arbres qui poussent avec des pièces, il y a de l'eau, il y a de la pluie qui tombe, c'est des
ce sont des pièces qui tombent et pas pièces, des gouttes d'eau.
Des pièces des francs suisses, et il y a des arbres qui poussent avec, et les feuilles ce sont des, et c'est aussi ça qui est vraiment chouette. Il y a des vidéos assez traditionnelles, classiques, mais il y a aussi beaucoup de créativité. Les gens ont eu envie de s'exprimer, de dire quelque chose.
En tout cas, c'est ce qu'on ressent dans votre travail, Blandine Grosjean, dans ce que vous nous avez permis d'avoir en avant-première. Je veux dire aux auditeurs qu'ils peuvent découvrir ces vidéos justement aussi sur le site de l'émission franceculture.fr à la rubrique de la marge des sciences, parce que là, on a mis en lien le site d'Arte et c'est à votre disposition. Et on sent dans toute cette démarche qu'il y a aussi des prises de conscience citoyennes, une sorte de résistance civile un petit peu. Et on se dit que peut-être que ce documentaire pourrait être placé dans les mallettes diplomatiques ou celles des invités de la COP21. C'est une idée en tout cas qu'on lance. Merci Blandine Grosjean, Opération Climat, documentaire participatif. On aura l'occasion d'en reparler au moment de sa diffusion. Et donc ce qui sera diffusé entre le 30 novembre...
Le 24 novembre.
24 novembre et tout ça au moment de la COP21. Et c'est la fin de la Marche des Sciences, émission préparée avec Catherine Donnet, Anaïs Morales pour les archives et associée à Hervé Evano de l'INA. Je remercie aussi Romain Couturier de la discothèque et l'extraordinaire Alexandra Malka, l'exceptionnel Jean Frédérix.